Il est 12h31, c'est donc plein d'espoir comme eux que nous attaquons ces nouvelles du monde, les premières depuis l'année 2024, en tout cas depuis mon retour dans les studios de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein ? Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, re-bienvenue dans ces nouvelles du monde. C'est pas du tout les premières de l'année, c'est juste que je suis parti un petit peu trop longtemps, j'ai perdu le fil. En tout cas, nous sommes bien le mardi 20 février, nous sommes bien en direct sur Radio Escapade depuis les studios de Saint-Hippolyte-du-Fort. On va donc reprendre en douceur cette rentrée, douceur comme la météo d'ailleurs. Avec, eh ben, on va prendre un petit peu des nouvelles, et plutôt une bonne nouvelle, c'est que la presse libre n'est pas morte, elle se porte même plutôt bien en termes de contenu. Après, je vous cache pas qu'il manque d'argent, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, vu qu'on entend pas mal parler de problématiques sur le pluralisme des médias en ce moment, bah, je ne ferai que vous encourager à vous tourner vers les médias indépendants et souvent bien locaux, qui parlent du coup de problématiques avec un petit peu justement un point de vue un peu plus complexe et un peu moins manichéen que d'autres. On va donc commencer par tirer un petit coup de chapeau à L'Empaillé. L'Empaillé, c'est un trimestriel indépendant de la région Occitanie, qui a pris le jour plutôt du côté de l'Aveyron et du Tarn, depuis 2020 maintenant, et ils sont diffusés à 20 000 exemplaires quand même dans tous les kiosques. C'est le numéro 12 qui vient de sortir, et à travers ce numéro 12 se lance également l'agrandissement justement de leur zone de diffusion. Donc ils vont maintenant sur les anciennes régions de l'Aquitaine, du Limousin, de l'Auvergne, de la Drôme et de l'Ardèche, avec donc 30 000 exemplaires maintenant qui seront distribués sur ce vaste territoire. Comme d'autres titres de presse indépendante nous rappellent cependant ce petit courrier, ils sont souvent invisibilisés par les monopoles de presse qui règnent dans nos régions. La fameuse presse quotidienne régionale, représentée chez eux par La Dépêche, Sud-Ouest ou Centre-France, mais chez nous plutôt par Midi Libre. Bon, faut dire qu'en plus, ici, ils sont un petit peu attaqués à la presse quotidienne régionale et qu'ils ont... Ils se sont un petit peu penchés sur le passé un petit peu flou, voire même collabo, justement, de la famille qui gère La Dépêche. Ça leur a pas fait beaucoup d'amis dans la région. En tout cas, ils font des enquêtes très bien fournies et sur des sujets qui nous touchent d'assez proche ici, vu qu'on est dans la même région, que ce soit le photovoltaïque, par exemple, ou voilà, les questions de transition énergétique. Dans ce numéro 12, on pourra par exemple lire des choses sur les conditions de vie et de travail dans la région bordelaise des Grands Crus, autour donc de la viticulture, l'extractivisme et la pollution dans la vallée de l'Orbiel, la grève des travailleuses d'Honnête à Montpellier, une interview de salariés du planning familial autour de la question de l'inceste et de l'aliénation parentale, cette notion un peu floue aussi. Mais ils feront aussi un retour dans les colonnes de L'Empaillé sur le contre-salon des vieux et des vieilles qui s'est tenu, je crois, à Toulouse. Ils donnent bien entendu des nouvelles de la lutte contre la 69, dont on va reparler aussi dans ces nouvelles du monde, et un retour historique sur les grèves de 1936 à Toulouse et bien d'autres sujets encore. Voilà, pour continuer ce petit tour de pub pour L'Empaillé, sachez qu'en plus des kiosques à journaux où normalement ils sont distribués, vous pouvez en trouver dans des points de distribution indépendants, comme par exemple aux vidéos au Vigan, à la librairie Le Pouzadou ou à la ressourcerie du Pont. À Crosse, c'est au Mas Lafond, à La Roue Libre que vous pouvez le trouver. À Saint-Hippolyte-du-Fort, bien évidemment, à La Fourmi et à La Cigale, mais aussi au bar Le Pradet. Sur Sommières, c'est au magasin Bio. À Sauve, dans la librairie Alter Livre. À Saint-Jean, à la bibliothèque de la Lézarde. À Ganges, au Café du Siècle. Et à La Roque, à côté, chez justement aussi la coopérative Bio, Bio Ensemble. Et enfin, librairie La Bestiole, à Viol-le-Fort. Voilà, j'ai sélectionné uniquement les points de vente situés à peu près dans notre zone de diffusion, mais il y en a plein d'autres. Vous les retrouverez sur leur site lempaillé.fr. Vous pouvez toujours, sinon, l'exiger à votre vendeur de journaux au kiosque. Et par là même, vous ferez vivre une équipe dynamique de journalistes indépendants et compétents. Et ils en ont besoin, enfin on en a besoin surtout de ces journalistes, sachant qu'en plus, comme je vous le disais, en préambule, ils gagnent très peu d'argent, donc vous pouvez aller sur leur site, faire un don, ou mieux encore, vous abonner, comme ça, ça leur assure un petit revenu sur l'année, et ça permet d'y voir un petit peu plus clair au niveau de la comptabilité, ça fait du bien à toutes les associations. Suivez mon regard, vous avez aussi un bouton sur le site radioescapade.org si vous le souhaitez. Et puisqu'on est dans l'empaillé, on va justement détailler un petit article qu'ils ont publié qui se passe pas loin de chez nous. C'est, on peut y lire donc, une rencontre avec une association qui s'appelle Les Déculassés, E-E-S à la fin, puisque c'est une association féministe de Montpellier qui tente de renverser la vapeur à son programme Émancipation technique et auto-réparation. On y parle donc de mécanique. Car les femmes, bien qu'il ne leur soit pas formellement interdit de s'investir dans la mécanique auto, sont souvent dissuadées de le faire. Si elles utilisent pourtant autant la voiture que les mecs, leurs connaissances techniques des véhicules sont souvent très limitées, ce qui les met dans une situation de dépendance qui peut être exacerbée pour celles qui vivent seules et qui sont confrontées à la précarité, où on n'a pas toujours les moyens justement de mettre la voiture chez le garagiste dès qu'il y a un problème. C'est Sarah, la présidente de cette association féministe, donc Les Déculassés, qui fait partie, elle aussi, de ces 2% de femmes qui parviennent à travailler en tant que mécanicienne. Il y en a très peu dans la profession. Et elle a donc décidé de vulgariser et de partager ses connaissances et son savoir-faire en créant cette association, donc en 2021. Aujourd'hui, plus de 180 adhérentes, quand même, pour Les Déculassés. Cette association anime principalement des ateliers, donc des plus de dizaines par an, des ateliers de mécanique en mixité choisis, réservés aux femmes et aux minorités de genre. Mais il y a aussi une permanence téléphonique avec du conseil et de l'accompagnement en cas de besoin et des animations aussi de sensibilisation et des conférences pour essayer justement que la mécanique se développe plus du côté des femmes. Pour concrétiser ce projet, Sarah, donc la présidente, a poussé les murs afin de faire sa place dans ce monde d'hommes en comptant sur le soutien de son cercle de proches. Mais bien souvent, ce qui revient aussi dans les témoignages des participantes, c'est justement qu'un des premiers obstacles consiste à faire comprendre l'intérêt et l'envie de faire de la mécanique et de l'apprendre. Expliquer à nos amis, notre famille, qu'on a envie de s'engager dans un monde qui est censé appartenir aux hommes, c'est bousculer leurs croyances, explique une de ces participantes interviewées dans l'article. Concrètement, donc, Les Déculassés proposent différentes sessions de plusieurs heures. Ça va du module d'initiation à celui de la vidange, aussi préparer un contrôle technique jusqu'au module réparation libre pour effectuer par exemple le remplacement d'une courroie accessoire, d'une rotule de direction ou des plaquettes de frein. Toutes les choses qui sont accessibles, mais il faut quand même un peu d'outillage et une petite dose de confiance pour s'y coller. Tous ces ateliers sont en plus à prix libre, avec un prix conseillé autour de 10€ de l'heure. Ça s'appelle les ateliers Mécanista et c'est donc bien du concret, les mains dans le cambouis. Mais lit-on toujours dans cet article de L'Empaillé, ce n'est pas justement que du concret, c'est aussi une forme de reprise en main d'un savoir collectif. Ainsi, cette participante témoigne que c'était aussi cet atelier parfois un soutien psychologique pour ne pas abandonner face aux défis mécaniques et se donner la force et le courage d'investiguer méthodiquement les pannes malgré l'enclavement ou les défis économiques. Donc quand on a une voiture un petit peu capricieuse, oser aller essayer de comprendre ce qui s'y passe et puis potentiellement la réparer, en tout cas se faire aider. En 2022, Les Déculassés sont passés à la vitesse supérieure. L'association a participé à l'organisation de l'Atenaille, c'est un festival féministe des savoir-faire techniques, justement, qui se déroulait du côté de Montpellier. Un festival où on propose de se former et de s'initier à des domaines très variés, plutôt traditionnellement masculins, comme la mécanique auto, bien sûr, mais aussi l'informatique, la charpente, l'électricité, les techniques de terre-paille, la conduite des tracteurs, la menuiserie, etc., etc. Festival qui a connu d'ailleurs un très grand succès, ça s'appelle La Tenaille. Allez voir sur internet, j'imagine qu'il y en a un qui va aussi se profiler pour cette année. Pour revenir à cette association Les Déculassés EES, la richesse de ces ateliers va donc bien au-delà des savoir-faire, des réparations huileuses ou du contact avec des outils parfois inconnus. Ce sont bien aussi les découvertes et les expériences qui se partagent au sein de ces ateliers, les discussions autour des schémas traditionnels et des normes sociales sexistes qui excluent les femmes des connaissances techniques et ce dès leur plus jeune âge. Par exemple, explique une participante, se sentir capable de changer une roue en cas de pépin, se tenir au fait des procédures de base à effectuer soi-même pour l'entretien du véhicule au quotidien. Pour une autre participante, ces ateliers d'initiation sont aussi très utiles pour apprendre à nommer les différentes parties du véhicule, afin de mieux s'auto-défendre face aux garagistes. Et oui, c'est un autre problème. Souvent, les femmes qui se retrouvent seules dans les garages sont victimes d'arnaques perpétrées par des garagistes peu scrupuleux. Il y en a. Autonomie donc et autodéfense au programme pour les déculasser. Ces ateliers sont donc en non-mixité choisie, vous l'aurez compris, c'est-à-dire que ça s'y déroule de préférence sans hommes cis. Ce sont des espaces sécurisants où les femmes peuvent apprendre et échanger en toute bienveillance. Cette association a depuis connu un certain succès, elle est relayée dans la presse locale. On y trouve 2 mécaniciennes et une quinzaine de bénévoles actives pour en tout une quarantaine d'ateliers dans l'année, environ autour de chaque fois 6 à 8 participantes pour chaque atelier. L'association vise à élargir son équipe pour pouvoir augmenter la fréquence des ateliers et elle réfléchit aussi à poser les bases pour imaginer des ateliers qui soient encore plus inclusifs, qui seraient ouverts aux femmes dans des situations précaires. Ainsi, signe ce journaliste, la prochaine fois qu'on ira toquer à leur porte, on espère qu'elles auront troqué leur terrain de Grabel pour un grand garage associatif. Voilà, et l'auteur de ces lignes pour le journal L'Empaillé, c'était donc Ricardo Parera. Allez, puisque c'est toujours la rentrée, on continue à célébrer les médias indépendants proches de chez nous, qui nous fournissent souvent des bonnes infos et des contrepoints sur l'actualité. On part donc dans les colonnes du Point, le Point avec un G à la fin, comme le point levé, qui a aussi une version papier et un site internet qui s'appelle lepoint.fr, où on pouvait lire, justement, il y a quelques jours, une célébration de cette édition du Carnaval des Gueux qui s'est tenue à Montpellier. C'était mardi dernier, Mardi Gras. Plusieurs centaines de personnes, pour la plupart costumées et aussi munies d'instruments de musique, se sont réunies donc ce dernier mardi 13 février dans les rues du Vieux-Montpellier, dans l'Écusson, pour célébrer la traditionnelle fête populaire du Carnaval des Gueux. En musique, dans la bonne humeur, bien loin des dispositifs policiers qui avaient pu être observés lors des éditions précédentes. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique qu'à part l'article du Point, il y a eu 0 article dans la presse quotidienne. Pourtant, c'est pas anodin quand même, 400 personnes qui déambulent toute la soirée et font des feux dans la ville. Mais bon, soit il y a eu une consigne de ne pas relayer l'affaire dans les médias, soit le fait qu'il n'y ait pas de dégradation et de problème avec d'altercation fait que les journaux, ça ne les intéresse pas. En tout cas, cet article du Point lui revient sur la soirée et il rappelle donc que pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucun arrêté préfectoral qui était censé interdire l'événement. Les pouvoirs publics auraient-ils enfin compris qu'interdit ou pas, ce carnaval aurait lieu ? Question est posée. En tout cas, les 2 dernières éditions, donc 2023 et 2022, n'avaient pas ramené grand monde. Et puis ça s'était bien passé. Est-ce que ça aurait peut-être fait revoir à la baisse le risque pour la police de voir des vitrines de banques se faire démolir ou la ville repeinte, comme ça a pu être le cas quand même dans certaines éditions passées ? Eh bien non, nous répond une des carnavalières qui était présente à ce carnaval. Elle dit non, c'est parce que cette année, même Michael Delafosse a soutenu l'événement. En effet, pendant la soirée, un fly parodique était distribué, signé avec les armoiries de la métropole qui soutenaient donc fervemment, avec ferveur, ce carnaval. Et elle a rajouté, on est au moins 10 000, le président Lula vient d'appeler, même les organisateurs du carnaval de Rio sont jaloux. Il demande l'asile politique à Montpellier. En tout cas, ce carnaval, ce cortège, après s'être réuni au Pérou, en s'agrégeant donc de nombreuses personnes, a fait des déambulations toute la soirée dans les rues du Vieux-Montpellier, sans qu'aucun uniforme de police ne soit en vue. Quelques feux de poubelles et tags ont ponctué le parcours, ainsi que quelques slogans qu'on a pu entendre déjà dans les manifestations des Gilets jaunes ou d'autres mouvements sociaux. Ainsi, le fameux « on est là » ou « siamo tutti antifascisti ». Tout ça sans finir en émeute comme ça a pu être certaines éditions passées. La soirée s'est d'ailleurs terminée aux alentours de 2h30 du matin au pied de la cathédrale Saint-Pierre où les carnavaliers ont dansé autour d'un feu. Hormis quelques contrôles de la BAC et probablement pas mal de gueules de bois, conclut cet article, aucun incident ou trace de répression n'est à noter. Bref, comme l'écrivent les journalistes du Point chaque année, jamais répression ne tuera carnaval. Et tout le monde s'est accordé à dire que c'était quand même bien sympa de pouvoir faire la fête tranquillement sans se faire nasser dès le départ du cortège, comme par exemple en 2020. Alors, à l'an prochain, c'est le rendez-vous qui est donné. Et pour tous ceux qui demanderont chaque année, ouais, mais c'est quand carnaval ? C'est facile, c'est Mardi Gras, c'est à 19h, c'est au Pérou, et costumé, et ça tombera le 4 mars 2025. Vous pouvez le noter si vous avez déjà votre agenda de l'année prochaine. « À lire aussi d'ailleurs à côté de cet article dans les colonnes ou sur la page internet du Point, des nouvelles démobilisations sociales sur Montpellier et alentour. Par exemple, la censure de tout soutien affiché à la Palestine ou bien une procédure inédite qui a été lancée par la France Insoumise à l'époque où l'actuel préfet de l'Hérault était encore en poste au Tarn. Et donc l'ancien préfet du Tarn passera au tribunal pour avoir à l'époque interdit une manifestation. On était en septembre 2023. C'était justement les Insoumis qui voulaient manifester en marge du procès d'un groupuscule d'extrême droite, Patria Albigès. Et on a empêché donc cette contre-manif d'avoir lieu avec le motif de risque de trouble à l'ordre public. Et c'est là-dessus que va se jouer donc ce procès qui s'ouvre ce 27 février. En théorie, le préfet risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. On se doute bien qu'il risque pas d'en voir le bout de la queue de cette peine, mais quand même, les discussions vont peut-être être intéressantes. Et parce qu'on sait de plus en plus souvent, en tout cas, que ce motif, justement, de trouble à l'ordre public suspecté est brandi par des préfets pour interdire des fois des manifestations tout à fait légitimes, notamment quand il y a des contre-manifs et souvent antifascistes. Un autre article, d'ailleurs, que dans les colonnes du Point, un sujet sur lequel les journalistes passent pas mal de temps et font des jolies enquêtes, c'est sur la vague conspirationniste New Age qui touche le département et la région un peu. Ils se demandent si Montpellier serait en train de devenir la capitale de l'ésotérisme New Age, à défaut d'être capitale de la culture. En ligne de mire, cette fois-ci, l'Antigone des associations de l'an dernier, sur la liste duquel figuraient des associations et des individus répertoriés, notamment par les autorités qui travaillent sur les dérives sectaires. On peut citer Pierre Lassalle et puis son asso Kaya Universe. Ils ont été justement assistés à une de ces séances de méditation et puis enquêter un petit peu sur les statuts de cet asso. Et en posant ces questions, que fait le service vie associative de la ville de Montpellier? Y a-t-il un contrôle, a priori, sur les assos qui sont répertoriés, par exemple, pour l'Antigone des associations? Et sinon, ne serait-il pas pertinent d'en mettre un en place? Surtout à l'heure où l'Assemblée nationale se penche sur un projet de loi qui vise à lutter contre les dérives sectaires, notamment en ce qui concerne la santé. Allez, suite et fin de ce grand moment de copinage avec les journalistes indépendants, avec l'annonce, là c'est pas des journalistes, c'est des écrivains on va dire. En tout cas, c'est le dernier numéro de Nune Attaque qui vient de sortir, le 9e opus, donc pour cette petite revue d'histoire, culture et lutte des montagnes, avec encore là-dedans beaucoup d'articles qui risquent de titiller vos neurones, que ce soit par leur proximité avec les problématiques qu'on connaît ici dans les Cévennes ou leur éclairage historique sur des épisodes plus ou moins connus de la petite histoire des grandes luttes sociales. Par exemple, dans le dernier Nune Attaque, la création et les enjeux du SGT, c'est le syndicat des gardiens et gardiennes de troupeaux. On parlera donc des bergers et des bergères qui lèvent la houlette et qui tentent de se fédérer pour défendre des conditions de travail très difficiles. On pourra aussi lire un article sur des procès de sorcellerie en Alsace, aux alentours du XVIe-XVIIe siècle. Un retour réflexif et critique sur tout le mouvement de contestation qu'avait suivi au moment où la Légion étrangère rachetait une ferme du côté de Saint-Jean-du-Gard. Un rachat qui a d'ailleurs été effectif. Dans cet article sont explorées notamment les raisons de cet échec, de l'échec de cette opposition. On peut y lire aussi un essai, une tentative de synthèse autour des pratiques de l'éco-buage et tous les débats enflammés qu'il génère. Aussi quelque chose sur les cartes géographiques, notamment l'histoire et les techniques de réalisation des cartes IGN avec tous les enjeux qu'il y a dans la manière dont elles sont modifiées au fil du temps. On peut aussi y voir d'autres manières de cartographier le monde. Bref, voilà, Nune Attaque, ça fait prendre de la hauteur, tout en restant bien les deux pieds dans le territoire, le tout avec des jolies illustrations faites main, et une revue qui est d'ailleurs aussi faite en partie à la main. Vous pouvez la retrouver, elle aussi, chez vos meilleurs cafés associatifs, par exemple au siècle à Ganges, et sinon vous pouvez la commander à Revue Nune Attaque, ça s'écrit nunatak-diffusion@riseup.net. J'ai pas trouvé la liste des points de distribution dans la région. Mais en tout cas, si vous voulez déjà aller lire, ce qui est super aussi, c'est que tout est consultable, gratuit, et c'est en ligne, et c'est sur le site revuenunattaque.noblogs.org.
Changer le monde, changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Allez, sans transition, on part faire un petit côté de la ZAD, qui n'est plus, en tout cas, de l'opposition à la 69 du côté de la commune de Saïx. Une ZAD qui s'est faite évacuer jeudi-vendredi dernier. Une ZAD en contestation au projet de construction de la 69 qui devrait relier Toulouse à Tarbes. Et l'évacuation, en tout cas, de ses opposants est toujours en cours. Devrait même peut-être durer un moment, car ces fameux écureuils se sont perchés bien haut dans leur cabane. Parallèlement à cette évacuation en cours, la polémique enfle autour notamment des méthodes des forces de l'ordre et aussi leur donneur d'ordre, le préfet du Tarn. C'était ce vendredi 16 février, qu'une plainte contre X a été déposée par exemple pour mise en danger de la vie d'autrui suite à l'opération de police qui a été menée sur la ZAD de l'autoroute A69. On a pu voir pas mal de vidéos qui ont circulé justement sur les agissements des forces de l'ordre. Cette ZAD est installée, je vous le disais, depuis le mois de novembre, dans le bois de la Crémade à Saïx. Elle était en partie évacuée, en tout cas pour tout ce qui était au sol, les cabanes, etc., lors d'une opération de police menée sur le site jeudi dernier, mais en partie seulement, puisqu'une partie de la ZAD se trouvait en hauteur. Plusieurs militants restaient encore perchés dans les arbres. Ils étaient 18 encore ce dimanche, et je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 8. Enfin, je n'ai pas non plus un compte, je ne suis pas en communication directe avec la préfecture, mais en gros, voilà, moins d'une dizaine. Dimanche, on pouvait lire que ces écureuils assiégés par les nombreuses forces de police ou de gendarmerie qui se relayaient au sol, avec même un problème de ravitaillement en nourriture et en eau, puisque leurs sympathisants étaient empêchés d'arriver proche d'eux. Le pied des arbres n'est pas accessible et leur ravitaillement est impossible, déclarait d'ailleurs le collectif La Voie est libre, le collectif qui s'oppose à cette construction d'autoroute. La Voie est libre a donc annoncé avoir déposé avec plusieurs autres associations, dont ATTAC, la Ligue des droits de l'homme, l'Association nationale pour la biodiversité et le Groupe national de surveillance des arbres, une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Photos, vidéos à l'appui, ils ont démontré donc les exactions commises par les forces de l'ordre. On peut y voir des gendarmes et des policiers mettre le feu à différents matériaux, du bois, du plastique, dans les bois, mettre de l'essence aussi au pied des arbres dans lesquels étaient juchés les militants. Des scènes surréalistes, précisent les auteurs du dépôt de plainte, en expliquant que ces actes ont généré des fumées toxiques en direction des activistes qui étaient présents dans les arbres, ce qui les met donc concrètement en danger de mort. On a parlé aussi de torture de forme psychologique, comme tenter d'empêcher les militants de dormir en venant systématiquement faire du bruit au pied de leurs arbres, les menacer, et puis surtout tenter de mettre le feu à une forêt en période de sécheresse, c'est quand même un peu débile. Des élus ou des parlementaires insoumis et écologistes ont d'ailleurs eux aussi dénoncé ces méthode au gouvernement, et des instances indépendantes se sont saisies du dossier. À noter quand même pas des moindres, c'est Michel Forst, le rapporteur spécial de l'ONU en charge de la protection des défenseurs de l'environnement, qui fait donc un bilan mondial de la situation des protecteurs de l'environnement qui sont menacés et qui s'intéresse de plus en plus à la France. Il alarmait ce vendredi 16 février de la situation dans un tweet publié sur X en direction du préfet du Tarn. On y lisait ceci: les alertes sur les méthodes de maintien de l'ordre actuellement employées contre les militants pacifiques sur le chantier de la 69 sont alarmantes. Il est indispensable d'apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s'exerce. Pour ce qui est de déloger donc ces écureuils, il faudra du temps, peut-être même toute la semaine, aux gendarmes pour contraindre ces occupants à descendre. Les mots du préfet dans la dépêche du midi d'hier disaient ceci: faire descendre en toute sécurité les 8 personnes encore présentes, c'est ça notre objectif. Bon, toute sécurité, une fois qu'il y a les caméras, visiblement, c'est ce qu'il dit, mais tout le week-end, enfumer des personnes perchées, exténuées dans des arbres pour les faire tomber, ça ne semble pas la méthode la plus sûre. Cette opération se fera dans le temps long, puisque la dernière de ce type avait duré 3 jours, environ une personne par jour, je crois que c'est à peu près ça le ratio de ce type d'opération. Les écureuils, eux, continuent de crier leur détermination et ils rappellent que pour eux, l'abattage des arbres qu'ils défendent est interdit jusqu'au 1er septembre. C'est d'ailleurs dans cette atmosphère tendue du côté de la ZAD que on a parallèlement appris l'identité du président de la commission d'enquête parlementaire qui va devoir étudier le montage de ce projet, le montage juridique et financier. Eh bien, il ne s'agit rien de moins que de Jean Terlier, qui sera donc le président de la commission d'enquête parlementaire. C'est un député Renaissance du Tarn et un défenseur acharné de la 69. Voilà, nommé à la tête de la commission d'enquête, c'est toujours dans la même ligne. Un sacré bras d'honneur au garde-fou démocratique, ce sont les mots du collectif La Voix est libre, puisque cet élu, fervent défenseur de la 69, est accusé par les opposants de conflit d'intérêts. En effet, sa femme est cadre du groupe Pierre Fabre. Pierre Fabre, c'est un géant pharmaceutique français qui est très très partisan dans la réalisation de cette autoroute qui arrangerait bien ses affaires. Son statut de président lui permettrait d'échapper à toute audition d'ailleurs, qui est pourtant indispensable, dénoncent les militants. Voilà, la meilleure planque, c'est peut-être la place la plus visible, président donc de la commission d'enquête parlementaire. Auprès de la dépêche du midi, ce fameux Jean Terlier dénonçait lui une campagne médiatique dégueulasse qui ne visait qu'à le salir. Agacé qu'on touche à sa famille, il dit se réserver le droit de déposer plainte contre eux, insinuant l'existence donc d'un tel conflit d'intérêts. À l'initiative de cette commission d'enquête, c'était la députée écologiste de Haute-Garonne, Christine Arrigui, qui elle sera bien quand même la rapporteuse de cette histoire.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
La classe mondiale, peut-être même le champion du monde.
Et on termine avec ce rayon écologique et cet incendie dont vous avez peut-être entendu parler ce week-end du côté de Viviez en Aveyron. Un incendie a détruit 900 tonnes de batteries au lithium. Cet incendie s'est déclaré le 17 février dans un bâtiment du site industriel de la SNAM, la Société Nouvelle d'Affinage des Métaux. On est à Viviez dans l'Aveyron. C'est un entrepôt d'une superficie de 3000 m² où étaient stockées 900 tonnes de batteries au lithium dans le but d'un recyclage. La préfecture a indiqué le lendemain, le 18 février, à l'AFP que l'incendie n'avait pas fait de victimes, mais que le foyer était toujours actif, en indiquant toutefois qu'il n'y avait pas de risque de propagation. Tout allait bien. Allez voir un petit peu la tête d'épanage de fumée, il y a des vidéos qui tournent sur les sites des journaux locaux. C'est assez impressionnant quand même, les fumées. C'est très difficile de venir à bout de ces feux de batterie. Il a fallu ralentir l'extinction pour éviter que les zones à proximité ne soient contaminées, a ajouté la préfecture. Ce site de la SNAM, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE, mais catégorisée Céveso, seuil haut, seuil maximum du Céveso. Et selon une source policière citée par l'AFP, la toxicité des fumées et des eaux d'extinction, donc les eaux utilisées pour éteindre le feu et qui ensuite coulent dans la nature, tout ça est contrôlé par les marins-pompiers de Marseille. Et eux disent que tout va très bien, il n'y a aucun risque de toxicité. Ce qui est arrivé est très grave et nous espérons beaucoup de l'enquête qui va suivre, indiquait de son côté l'association locale de défense de l'environnement ADEBA. Nous ne nous contenterons pas de communiquer rassurant de la préfecture, de l'entreprise et des élus locaux. Comme reporter, le journal Reporter l'indiquait dans un reportage près de Rouen, en Seine-Maritime, où un incendie s'était aussi déclaré le 16 janvier 2023, le nombre de ces fameuses batteries au lithium augmente à fur et à mesure que se répandent les véhicules électriques. Mais ces batteries sont connues pour leur propension à s'enflammer. Ce sont des incendies qui sont alimentés par les produits eux-mêmes et qui dégagent un fort potentiel calorifique, avait déclaré justement l'année dernière le colonel Stéphane Gouezec, directeur des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Ces batteries au lithium ne sont pas considérées en France comme des matières dangereuses. C'est un gros vide juridique que soulignait d'ailleurs un rapport de la DREAL de Seine-Maritime l'an dernier suite à cet incendie à Grande Couronne. Ainsi, le stockage des modules et des batteries, bien que contenant des substances dont le stockage est interdit dans l'entrepôt de l'exploitant, n'est pas interdit en tant qu'article. Il y a une petite faille juridique. Ce point ne constitue pas une non-conformité, mais il interpelle sur la prise en compte des dangers liés au stockage de ces modules et de ces batteries. Voilà, des batteries donc qui sont souvent après dans les circuits de... Là, c'était un circuit de recyclage stocké, et ben, on ne peut pas trop aller voir l'état d'une batterie à l'intérieur à moins de l'ouvrir. Et elles ont l'air de vouloir prendre feu un petit peu comme elles veulent, des situations qui risquent donc, a priori, de se multiplier si tout continue comme prévu dans cette grande et belle transition énergétique.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Allez, c'est sur ce rire magnifique, cynique qu'on se quitte. Il est 13h. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Escapade et on se donne rendez-vous demain pour un agenda culturel et jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, bon, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution,
info@radioescapades.org.